Bon, alors bienvenue à la Société des gens de lettres, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ici, mais pas tout le monde. Donc nous allons débattre avec derrière nous nos fondateurs qui ne nous quittent pas. Je ne donnerai pas toute la liste, mais vous pouvez reconnaître l'homme en veste rouge, là. Vous le connaissez, mais vous le connaissez plutôt avec une longue barbe. C'est Victor Hugo, vous avez aussi Gautier, Dumas, etc. Donc la GDL a été créée en 1838. Donc c'est une vieille histoire. Hein. Je crois que notre devise, c'est défendre le droit des auteurs. Voilà l'objectif de notre lutte, notre combat, enfin nos actions plutôt. Mais par ailleurs, nous réalisons un certain nombre de soirées. J'avais un collègue tout à l'heure qui me disait qu'en ce moment, il y a 3 soirées par semaine. Alors bon, les gens sont épuisés, donc il y a un peu moins de personnes. Mais de toute façon, les débats, je m'adresse surtout aux débatteurs, tu pourrais trouver qu'on est dans une relation très intime. Les débats sont enregistrés et seront diffusés. Donc on parle pour beaucoup de monde, en fait, ce soir. Voilà, je passe la parole à Vincent Gimeno, qui, oui, parce que j'ai pas dit quand même que cette soirée est organisée par le marché de la poésie, mais il va nous le dire.
Bonsoir, merci Mathias. D'abord, merci à la SGDL de nous accueillir de nouveau dans ces lieux. C'est la deuxième périphérie cette année et nous en avons déjà fait par les années passées. C'est une périphérie qui se déroule dans le cadre des États généraux de la poésie que nous avons organisé, notamment avec la SGDL, avec de longues étapes de préparation. C'est donc une table ronde qui sera enregistrée et qui sera retransmise sur le site internet du marché de la poésie la rentrée. Donc ça veut dire qu'elle sera écoutée à la longue, et ça c'est important. Puis je vois que le thème de la poésie et transmission me rassure amplement parce que la transmission est surtout féminine ce soir, et c'est vrai que dans le domaine de la poésie, on a très longtemps ignoré la parité, donc je suis rassuré de savoir que c'est une parité majoritairement féminine ce soir, et on en est rassuré sur la transmission de la poésie.
Un mot sur les États généraux. Les États généraux, c'est les États généraux. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de faire un bilan. Si à la fin, de nos échanges, on pouvait déboucher sur quelques, bon, on peut appeler ça des propositions, hein, l'ensemble de tous ces échanges qui ont lieu un peu partout actuellement devraient déboucher sur un certain nombre de propositions qui seront un peu nos mots d'ordre à nous poètes dans les années qui viennent.
Cette année, on fait un peu un état des lieux et. Ce qui s'est avéré avec le temps, c'est que la masse de travail était énorme autour de ces états généraux. Donc on a préféré cette année se consacrer à un état des lieux et cette année au cahier des doléances. Avec une petite surprise, c'est une idée qu'on a eue avec Yves Boudier la semaine dernière, c'est que la veille de l'ouverture du marché sur la place Saint-Sulpice, donc entre-temps on aura créé des comités régionaux pour faire remonter tout ça, et la veille de l'ouverture du marché de la poésie, on fera monter ces comités régionaux sur Paris pour présenter le cahier de doléances.
En 2018, donc.
En 2018, oui.
Bien, je passe la parole à Chantal Danjou. Chantal et moi, nous avons pensé à cette soirée, on l'a organisée ensemble. Nous sommes tous les deux à la commission de poésie de la Société des gens de lettres.
Alors, comme le rappelait Vincent, effectivement, la question qui va être agitée ce soir autour de cette table, et puis avec vous, le public, sans doute, c'est donc bien la question de la transmission, avec le verbe un peu provocateur, d'ailleurs, de la poésie. Ça s'apprend. Et c'est vrai que ce verbe apprendre, on va voir comment le décliner dans le cadre donc poétique. Je dirais que ça serait un petit peu admettre aussi toutes les différentes stratégies de transmission de la poésie, que ce soit effectivement dans un cadre scolaire, mais ça pourrait très bien avoir lieu dans des médiathèques, ça pourrait très bien avoir lieu aussi dans le cadre de résidence, donc différents lieux. Ça serait donc examiné, et ça Nathalie Brossard nous en reparlera sans doute, quel est son rapport au monde, au savoir et au langage. Et nous avons donc mis autour de cette table, réunis autour de nous, il faut Vous m'entendez là?
Oui, oui, comme ça.
Très bien.
Oui. Nous avons donc réuni autour de cette table des intervenants très différents et que je commence par remercier chaleureusement là aujourd'hui de leur présence. Je dis différents puisqu'il y a à la fois des professeurs, des poètes, des traducteurs, des étudiants, des animateurs d'ateliers d'écriture, des éditeurs, chacun d'eux d'ailleurs pouvant allier plusieurs fonctions. Et ça nous donne donc, bien sûr, l'occasion d'aborder la poésie par ses multiples acteurs et dans la, j'allais dire, la différence de leur langage et des interprétations. Alors, quand nous questionnons, effectivement, la poésie, ça s'apprend, il faudrait peut-être se demander ce qui s'apprend quand la poésie est au programme. Et je me dis qu'elle ne s'attrape pas aussi facilement que cela et que l'affairer, mais faut-il l'affairer, relève parfois du grand art. Alors, c'est à cela donc que vont devoir s'affronter nos invités. Et je vais commencer par poser à chacun d'eux une question qui sera aussi en même temps l'occasion de faire un tour de table et de les présenter. Alors, Nathalie Broussard, vous êtes enseignante et vous menez des ateliers d'écriture. Et j'ai envie de demander d'emblée, l'école, quel que soit d'ailleurs le niveau d'enseignement, est-ce un lieu qui réduit la poésie au silence? Et est-ce que la poésie, ça s'enseigne?
Alors, je ne pense pas que l'école réduise la poésie au silence. Ceci dit, je pense que elle n'a pas la place qu'elle devrait avoir. Très souvent, je n'arrive pas, enfin, si on peut trouver des éléments d'explication, souvent mes collègues ne sont pas très à l'aise avec la poésie. C'est en fait le genre qui les met le plus mal à l'aise. Et on sait très bien que quand on est mal à l'aise avec quelque chose, on ne peut pas arriver à le transmettre. Donc très souvent, à partir du collège, en tout cas, à partir du niveau que je connais bien, puisque j'ai enseigné au collège, j'ai remarqué que c'est la poésie qui est étudiée en dernier lieu dans l'année. Voilà, on attend les dernières semaines très souvent pour aborder ce genre qui mériterait quand même qu'on lui fasse une meilleure place et une plus grande place. Voilà.
Et est-ce que vous pensez, vous, puisque vous mêlez atelier d'écriture à votre enseignement, que justement le fait de passer par cette expérience finalement de l'écriture conduit plus facilement vos élèves à lire ensuite de la poésie?
Ben moi, je pense que ça change tout.
Et c'est vous qui menez les ateliers, vous-même?
Oui. Alors, il m'est arrivé aussi de faire appel à des écrivains. Par exemple, Madame Brigitte Gire, avec laquelle j'ai fait pas mal d'ateliers d'écriture, mais aussi sans l'intervention d'écrivains. Il est évident que l'intervention d'un écrivain donne une dimension supplémentaire à cet atelier. Voilà, ça apporte beaucoup parce qu'évidemment il y a le prestige de la fonction, alors que le prof il n'a pas le prestige que peut avoir un écrivain.
Et puis il est quand même prisonnier aussi d'un cadre bien habituel, bien connu des élèves, tandis que l'écrivain qui intervient est beaucoup plus libre finalement.
Même s'il écrit comme vous, je crois que vous écrivez un peu aussi.
Un petit peu, oui, mais je n'ai jamais rien publié.
Alors, puisqu'on est aussi dans les enseignants, en fait, je fais par ordre alphabétique, hein, pour ce sera beaucoup plus simple. Comme on est dans les enseignants, bon, Arianna Daniele, vous êtes née en Argentine, vous enseignez le français, si j'ai bien compris, à des étudiants étrangers en Argentine, donc vous avez cette expérience. Vous êtes aussi étudiante en France et vous écrivez dans les deux langues, c'est-à-dire à la fois donc le français et l'espagnol. Et j'ai envie de vous demander, vous, qu'est-ce que le bilinguisme apporte à votre travail poétique d'emblée?
C'est aussi une question de transmission.
Et c'est aussi une question de transmission.
Oui, je crois que l'apprentissage de la langue étrangère, finalement, c'est aussi c'est dans la même quête d'une langue à soi, en fait. Dans cette quête d'une langue à soi, en fait, moi, au moment que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à apprendre le français, c'était en même temps, et du coup, Évidemment, il y a des traces d'une langue et de l'autre, mais aussi, il y a dans les deux langues, il y a une absence de langue, que je trouve que cette absence première, c'est la langue à soi, enfin celle qu'on connaît tout au long de notre vie, ce qu'on nous écrivons aussi dans une quête de cette langue-là, qui est la langue à soi, justement. Et ce que je fais aussi quand... Moi, j'ai mené un atelier d'écriture en prison, c'était un milieu carcéraire, mais j'essayais justement de donner cette place, justement, pour moi... Ok. Et pour moi, la poésie, c'est-à-dire apprendre la poésie, si on peut dire qu'on l'apprend, c'était plutôt ouvrir des portes, comme une femme qui court dans un couloir en ouvrant des portes, c'était plutôt enlever tout ce qui empêche à quelqu'un d'être soi-même, d'avoir sa propre voix. C'est une question, finalement, la poésie de place, d'acceptation, de libérer des choses, de rendre libre la parole, libre l'existence. Je pense que c'est ça qui empêche au public de s'approcher à la poésie des fois, ou à l'inverse, ou même les élèves de...
Transmission et liberté.
Oui, c'est ouais, l'acceptation de l'autre, la liberté, une place, donner une place, c'est pour moi.
Dire là-dessus, oui. C'est vrai que les ateliers d'écriture, c'est ça que ça amène à l'élève, c'est-à-dire que c'est un espace de liberté justement, qui est accordé à l'élève et du coup ça change tout. Ça les sort justement du carcan scolaire pour les faire rentrer dans une liberté d'expression.
Tout à fait, et justement puisqu'on parle de sortir d'un carcan qui peut être aussi le carcan d'une vision de la poésie, j'aurais voulu m'adresser aussi là maintenant à Jean-Marie Glaise, donc enseignant, poète, et vous poser directement la question, qu'entendez-vous par post-poésie, un hors-genre, un contre-courant, une pratique expérimentale? Et quand vous écrivez dans le livre des cabanes, je vous cite, « L'image absorbe les mots absorbent les images, effacent une à une toutes les images, ainsi des pas sur l'herbe coupée, mouillée, foulée, une phrase invisible et nue, muette et brisée. Comment parler à la suite de transmission et surtout, est-ce souhaitable d'en parler ?
Ah. Voilà, je commence par faire des catastrophes, normalement. C'est logique.
Là, c'est le contre-courant.
Mais non, je ne sais pas si c'est le lieu là, de développer... cette notion que j'avance de post-poésie, disons que la post-poésie, c'est une des formes que prend la poésie après la poésie. Donc la poésie, elle est constamment, si vous voulez, en dépassement d'elle-même, et par conséquent, elle est d'une certaine manière toujours post-poétique, c'est-à-dire qu'elle vient après avoir renoncé ou avoir en quelque sorte sacrifié ces frontières de définition ancienne ou préalable, etc. Voilà. Donc ce que j'évoque, c'est une transformation continuelle de la poésie par elle-même. Et donc, est-ce que cela, enfin, dans quelle mesure cela peut se transmettre? Enfin, j'ai passé ma vie entière à enseigner la poésie, c'est-à-dire à enseigner quelque chose d'a priori inenseignable, voilà. Et donc, pour ce qui me concerne, j'ai donc essayé d'articuler trois postures, en quelque sorte. D'abord, celle de l'écriture, qui est première pour moi, fondamentale, qui est donc une sorte d'activité, d'intense activité de recherche, et de perte de maîtrise d'une certaine manière, enfin encore que la maîtrise jamais on ne la possède. Donc pour moi la poésie est une activité, disons, de mise en, pas en péril, mais en tout cas c'est un risque pris avec la langue, avec soi, avec le réel, etc. Et c'est une activité qui a pour objet précisément... ou projet de s'approcher du réel, de s'approcher donc impossiblement du réel. Je dirais que derrière la poésie, pour moi, ou la post-poésie, peu importe, les formes qu'elle prend ou qu'elle prendra, il y a une passion réaliste, en quelque sorte, ou une passion réaliste, voilà. La deuxième posture, c'est la posture de lecture, c'est-à-dire que j'écris ma lecture. J'ai donc une activité critique et théorique, si on veut, concernant cette chose bizarre qu'est la poésie, incernable, indéfinissable, difficile à approcher. Et donc, je passe par le truchement de la lecture de textes. Je lis. J'ai une pratique lente de la lecture. Je prône la lecture lente, en quelque sorte, c'est-à-dire la lecture creusante face aux textes qui nous sont donnés par notre tradition comme poétique, entre guillemets. Et la troisième posture, c'est la posture qui résulte des deux autres, qui est que je tente de transmettre cette relation au poétique à des gens qui sont en face de moi et qui je ne dirais pas que j'enseigne un savoir, encore que cette poésie où elle a une histoire, etc., et on peut très bien la déployer à travers la transmission d'un savoir, mais en fait l'essentiel, c'est pas tellement ça, mais c'est précisément de transmettre. Mais transmettre quelque chose qui est une attitude. Transmettre un désir, en quelque sorte, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est transmettre le désir de lire, le désir d'aller vers l'écriture. Alors, pour dire très très vite, après ce qui vient d'être dit, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais fait, comme on dit, d'atelier d'écriture. Je n'ai jamais animé d'atelier d'écriture. Si l'écriture doit amener, comme j'ai entendu tout à l'heure, et de fait c'est ce qui se passe, par exemple des élèves à la lecture, vers la lecture, moi je pense que, enfin pour ce qui me concerne, c'est plutôt la démarche inverse que j'ai pratiquée, c'est-à-dire que enseigner la lecture, comme j'ai toujours essayé de le faire, a amené un certain nombre de mes élèves, de mes étudiants, à écrire. C'est-à-dire que c'est la lecture qui les a dirigés vers de l'écriture, vers l'écriture, ou vers le désir d'écrire, en tout cas. Et certains l'ont fait, et voilà. Donc, il y a les deux démarches, me semblent tout à fait, évidemment, complémentaires et possibles. Mais c'est important de dire cela aussi. Donc j'ai toujours évité, moi, l'atelier d'écriture, parce que j'en avais une vision non pas naïve, mais enfin, peut-être pleine de préjugés. C'est-à-dire que pour moi, l'atelier d'écriture, il était toujours pris entre une attitude hyper formaliste ou formaliste, c'est-à-dire enseigner des pratiques, des techniques, comme si l'écriture pouvait être... disons, réduite à, disons, ces façons de faire, quoi. L'extrême de ça, c'est l'Oulipo, etc., qui a une grande, vertu, entre guillemets, pédagogique. Et de l'autre côté, c'était, à une époque, dans les années 70, une espèce de croyance naïve, dans, disons, spontanéiste, c'est-à-dire, bon, l'écriture... libère l'expression, etc., etc. Alors, entre un formalisme, moi, qui me terrorise, et un expressionnisme un peu, non pas hystérique, mais enfin, bon, j'étais très mal à l'aise, et j'ai pris distance à l'égard de cela, et j'ai fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt une démarche passant par... la transmission du rapport au texte, à la lecture, etc. Et c'est à travers ça que, voilà,
que j'ai... Je trouve que vous insistez beaucoup justement sur la transmission d'un désir, et je trouve le terme extrêmement important. Et justement, je voulais donner la parole à Brigitte Gire, que je vois opiner du chef par rapport au désir, et en même temps, peut-être qu'il va falloir, il va vous falloir réagir aux propos sur la façon de mener un atelier, parce que Brigitte Gire, le langage chez vous a pris différentes voies professionnelles et de création, on pourrait dire en tant qu'avocate au début, que traductrice, que poète, Et comment s'est-il nourri finalement de cette diversité d'expériences, langage, et cette diversité vous amène-t-elle plus facilement à une transmission? Et comment?
Ça, je ne peux pas vous dire. J'ai commencé à faire des ateliers d'écriture il y a à peu près 20 ans. C'était un peu un hasard. Pour moi, l'atelier d'écriture, effectivement, ce n'est pas la transmission d'un savoir, surtout pas, même si effectivement, il n'y a pas d'atelier d'écriture qui puisse exister sans une lecture et des propositions de lecture d'autres auteurs. Hein. Je veux dire, en atelier d'écriture, moi, personnellement, je lis très, très peu mes textes. Ça peut arriver à la fin d'une série, on me demande un poème, d'accord, mais je m'arrange pour justement essayer de proposer des textes différents, mais ça dépend aussi du public, il faut dire, parce que les ateliers d'écriture, j'en ai également fait en milieu carcéral, j'en ai fait aussi bien, même à la maternelle, où là, il s'agissait de découvrir, parce que plus que de transmission, je dirais qu'il s'agit d'une découverte, à la fois pour l'écrivain, qui se met à écrire tout à coup, parce qu'à un moment, ça arrive. On ne sait pas trop pourquoi, il peut y avoir des circonstances extérieures ou pas. Moi, je sais que la première fois où j'ai écrit des poèmes, j'écrivais déjà de la prose, ou j'essayais d'écrire de la prose pendant mes études. Je voulais écrire quelque chose, j'avais été nourrie des contes et des images d'Épinal et tout ça par notamment mes grands-parents quand j'étais chez eux. Enfant, j'étais une enfant assez solitaire, dans un milieu musical, mes parents étaient musiciens, et je voulais faire quelque chose qui n'était pas la musique, Dieu sait si j'adore la musique, mais c'était le rôle de mes parents, je ne voulais pas le reprendre, je pensais que, voilà, il fallait faire autre chose, et j'avais très envie d'écrire, mais je ne savais pas si je pourrais, donc je m'essayais à des pages de prose et tout que je déchirais, et je me suis trouvée ensuite à Londres pendant 2 ans pour faire un stage justement en tant qu'avocat chez un solliciteur. Et là, la vie, la solitude, une histoire personnelle, fait que tout à coup, je me suis découverte à écrire des poèmes. J'ai toujours aimé la poésie, évidemment, quand j'avais lu un certain nombre de poèmes, mais pas tant que ça, les classiques français, voilà. Et j'ai écrit de manière sans du tout tenir compte de la forme. D'ailleurs, je ne tiens jamais compte de la forme. Je pense que, bon, la période actuelle, on l'invente, sa forme. Je veux dire, le formalisme, c'est plus à la mode du formalisme. Il peut y avoir de très beaux poèmes encore maintenant formels. Hein. Il y a des gens qui écrivent encore des sonnets. Et absolument, pourquoi pas. Ce n'était pas mon cas. Moi, j'avais...
Alors, qu'est-ce que vous avez le sentiment de transmettre dans ces ateliers d'écriture?
Je pense que, alors, quand on a parlé de désir, et ça, c'est évident, que c'est la première chose. On transmet à la fois un désir, on fait découvrir à l'autre un désir, une jouissance aussi dans la lecture et dans l'écriture, qu'on peut raconter des choses, on peut se livrer, on peut se découvrir soi-même, parce que au fond, j'ai pas essayé de me découvrir, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose de... C'est son histoire personnelle, pour finir, qu'on écrit dans un poème. C'est même si on ne parle jamais de soi, c'est son histoire personnelle très cachée dans peut-être l'inconscient. On découvre des choses. Cette fameuse phrase que je répète très souvent parce que je la trouve extraordinaire, les mots savent de vous des choses que nous ignorons d'eux, je la trouve vraiment tellement juste.
Alors, vous parliez là de désir, et moi je trouve ça très juste.
Et de plaisir aussi.
Et de plaisir, oui. Mais par contre, selon l'âge des personnes qui sont dans l'atelier, parce qu'il est tout à fait différent, me semble-t-il, de mener un atelier vis-à-vis d'enfants comme vis-à-vis d'adultes. Les adultes, c'est peut-être plus que le désir, c'est d'abord s'autoriser à écrire.
Alors, il y a une dimension de cet ordre, mais j'ai dû moi-même m'autoriser. Donc, je connaissais, à vrai dire, j'ai fait une très longue psychanalyse qui m'a un peu permis aussi d'être un peu, de voir au fond qu'elle était. Et il y a un moment où, au niveau de la psychanalyse, j'ai dû me dire que, pour finir, je m'autorisais à être écrivain parce que je le vivais de manière très contradictoire en étant persuadée que je n'avais aucune chance, que ce n'était pas moi, que ça n'allait pas, que je n'écrivais pas bien. Enfin, c'était très... Alors que j'avais déjà publié des livres. Hein. C'était très compliqué chez moi. Donc, dans la mesure où ça a été très compliqué, peut-être parce que j'avais une mère qui concertiste, que j'admirais, il y avait il y a toujours des facteurs dans l'enfance. Hein. Je pense que ça vient de très loin, le désir d'écrire. Je crois que...
Vous pourriez dire que dans vos ateliers d'écriture, il y a quelque chose de psychothérapique pour les...
Alors, dans certains cas, oui, mais... Psychothérapique, j'aime pas le mot, mais non, par exemple,
vous parlez de psychanalyse, c'est pour ça
oui,
que je.
Mais j'ai beaucoup fait de. Oui, mais je suis pas psychanalyste, entendons-nous. J'ai beaucoup fait d'ateliers en milieu défavorisé, notamment à Reims, dans la banlieue de Reims, à Melun, dans différents endroits, en ZEP, pour un public que ce soit. Des classes du collège ou du lycée, donc je le faisais dans plusieurs classes, souvent j'y allais 3 jours et j'avais plusieurs classes. Donc c'était très différent, et chaque fois on est devant un autre public et les choses se passent autrement. Mais c'est vrai que devant un public très défavorisé, qui ne connaît pas vraiment les textes, qui ne connaît pas vraiment... Il y avait des élèves à Reims qui n'avaient jamais vu la cathédrale parce qu'ils habitaient dans la banlieue de Reims et ils avaient déjà 15 ans quand même. Des choses de ce genre. Donc aucune notion de culture, quelque chose de vraiment un peu triste quand même. Et un imaginaire qui se lâchait difficilement. Donc j'étais là pour les accompagner, pas pour leur dire ce qu'il fallait faire, les accompagner pour... qui retrouvent eux-mêmes cette... Et alors là, je pense qu'il y a quelque chose de thérapeutique. Un peu. Je n'aime pas trop le...
Et c'est pour ça qu'on reviendrait au terme d'autorisation, ce qui me permettrait d'ailleurs de faire le lien avec Jenny Zélie, étudiante, avec un double travail d'édition, de performance. Et justement, j'ai envie de demander, est-ce qu'au titre de l'autorisation, la performance, elle ne fait pas d'emblée plus facilement sauter les verrous de ce que l'on n'ose pas dire, de ce à quoi on ne s'autorise pas.
En fait, la question s'est pas tout à fait posée comme ça pour moi, parce que c'est tardif l'écriture, tardif la performance, mais pas du tout tardif la parole. Oui. Et en fait, c'est plutôt que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était de construire des objets et de raconter des choses, mais en fait de jamais rien imaginer, d'être très littéral sur les histoires. Et en fait, c'est la littéralité qui m'a amené à la littérarité et qui m'a amené du coup à la performance et du coup à l'écriture. Et s'il y a poésie dans mon travail, c'est à des moments, c'est ou dans des structures, ou à certains endroits qui, ou plutôt que une longue prose, il y a quelque chose qui doit être immédiat.
Parce que vous faites bien précéder la performance. Vous faites précéder l'écriture de la performance. C'est pas un texte écrit que vous allez mettre en performance, c'est le contraire.
En fait, ça dépend. Ouais. Ça dépend du lieu de la performance. Si je fais une performance sur YouTube, ça n'a rien à voir avec le fait de faire une performance en direct. C'est pas les mêmes. Si elle est sur YouTube, il n'y a pas de texte qui précède. Il y a, en l'occurrence, un certain nombre de points qui sont dans le travail. Enfin, en fait, même si le travail est fait d'un ensemble d'objets, tous ces objets sont liés et se nourrissent entre eux. Du coup, il y a assez peu de précédents et de suivants, enfin, où ça change. Enfin, ça, c'est mobile.
Est-ce que vous penseriez, et je pourrais poser la question aussi à Nathalie Brossard, que la performance dans un univers scolaire, à la fois en direction des élèves et peut-être de certains enseignants, pourrait débloquer plus facilement l'intérêt pour la poésie ? Est-ce qu'elle aura un rôle de transmission peut-être plus direct ?
Ça dépend de quoi elle parle. Enfin, moi, je sais que je travaille beaucoup avec la télé-réalité. Et je crois que ça accroche. Enfin, je crois que ça dépend du public, mais je fais des allers-retours entre une... En fait, enfin, bon, dans mon cursus, j'ai fait une année de philo, donc je suis assez... entre une culture qui est plutôt une culture, je ne sais pas comment on dit... haute ou... Oh non, parce que ça voudrait dire que la télévision c'est bas, et j'aime pas dire ça parce que réellement j'ai un intérêt pour ça et c'est une vraie matière de travail. Mais disons que faire des allers-retours entre les deux, je crois que ça c'est une potentielle porte. Parce que Internet propose ça en fait, cette espèce de tout au même niveau non, mais en fait, formellement oui. L'espace Internet est construit comme de sorte que c'est la même. Enfin, les choses n'ont pas de. sont dans des rapports d'équivalence alors qu'elles ne l'étaient pas. Et ça, c'est une porte potentielle.
Bien, vous parlez donc Eugénie Zelli et Arianna Daniel. Moi, je serais très intéressé de savoir qu'est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous transmet. Vous êtes dans une formation universitaire à l'écriture créative. Je ne sais pas si c'est le terme exact. Et donc, vous êtes donc des exemples de personnes à qui on transmet quelque chose dans le cadre universitaire. Qu'est-ce que vous pourriez vous dire, vous, de ce côté-là, qu'est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous transmet à vous dans cette formation ?
Je crois que oui, c'est plutôt une... Après, c'est très personnel ce qui est sa porte, c'est très très personnel parce qu'il y a des gens qui commencent, qui explorent, qui sont plutôt dans la découverte, explorer des choses et qui ne sont pas forcément des travaux préalables. Il y a des gens qui sont plus dans un jugement déjà, qui savent plutôt ce qu'ils savent faire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi, ou sur quoi ils se questionnent, un travail plus précis. Et du coup, dans mon cas, ça m'a... Je peux parler que de
moi. Bah, oui, mais c'est, moi, c'est l'essentiel, hein, c'est l'essentiel, c'est pas, vous, là.
Mais dans mon cas, en tout cas, ça m'a... Moi, je viens de l'Argentine, où c'est un pays assez compliqué en ce moment, bah, difficile, et ça m'a mis face, ça m'a affirmé un peu, même si c'est, je croyais que j'étais dans à concevoir ce que je fais comme vraiment un travail, ce que je veux faire. Et ça m'a affirmé un peu cette question qu'on peut dire professionnelle, mais que je déteste ce mot pour l'écriture, je ne sais pas pourquoi, mais affirmer un peu ça et savoir comment ça fonctionne. Moi, je suis quelqu'un de très peu stratégique, je ne sais pas, je sais pas faire. Ça m'a un peu, comment dire, mis un petit peu point de couteau dans la bulle pour dire, bon voilà, il faut quand même, je ne sais pas.
Ça vous a donc plutôt conforté dans un désir que vous aviez ?
Oui, assuré, oui, solidifié. Après, les plus intéressants du master, c'est l'accompagnement qu'on a dans le projet, oui. Que pour moi, c'est un accompagnement aussi, c'est le côté effectif qui est le plus important. Tu vois, ça dépend aussi. Il y a des gens qui ont besoin qu'on lui dise non, c'est pas comme ça, et qu'on lui fasse tout le temps des remarques. Il y a d'autres qui ont besoin juste de quelqu'un qui dit je crois en vous. Vous voyez, c'est très, aussi très personnel. Moi, j'ai eu une référente avec laquelle je travaillais très bien, qu'elle comprenait aussi ma langue maternelle, aussi l'espagnol. Du coup, ça, c'est très riche. Cet accompagnement, partager l'univers avec quelqu'un d'autre, ça fait que déjà l'écriture, c'est assez solitaire. C'est vrai que ça donne une petite équipe qu'on ne trouve pas forcément.
Donc cette transmission, elle se fait pour vous dans le temps, hein, et dans une relation duelle avec quelqu'un, hein, autour de votre travail.
Oui.
Ça, c'est aussi parce que le master est construit comme ça.
Oui.
Enfin, moi, j'ai, du coup, comme j'ai une espèce de double expérience de transmission de création, même si ce n'est pas de la poésie à proprement parler, au Beaux-Arts, il n'y a pas... Enfin, encore qu'il y a des stations d'art poétique. Enfin, moi, j'étais au Beaux-Arts de Lyon et il y avait. Mais toujours est-il que le fait d'avoir cette espèce de référent, moi, je sais que ça... En fait, l'enjeu de la transmission qui, du coup, est catalysé dans une seule personne qui suit le projet. Moi, j'ai fait une rencontre qui s'est avérée absolument magnifique, enfin, de Béatrice Cussol, qui suit mon travail. Et elle, sa manière de faire, en fait, propre, qui n'est pas celle des autres, enfin, d'une certaine manière de travailler qui est très rigoureuse, qui n'a absolument rien à voir, par exemple, avec la manière de travailler de celle qui suit Arianna, c'est sa méthodologie d'enseignement qui touche ma méthodologie de travail. Et là, il y a une sorte de...
Vous dites méthodologie. Quel genre de méthodologie ? Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Oui, c'est en plus ça, c'est parce que c'est pas oui, c'est ça. Oula, attention. Moi, j'ai pas de mon bon plaisir, c'est de construire des systèmes et puis de les oublier. Et du coup, j'ai pas, ça me fait pas peur la méthodologie parce que c'est pas quelque chose que je conçois figé et enfin, c'est juste comment rassembler des preuves pour trouver le coupable, si on veut. Et les manières d'enseigner quand il s'agit de création, je trouve, sont de cet ordre-là. C'est de proposer. Les gens sont faits de telle sorte qu'ils ont des systèmes à des certains moments. Et puis ça change sûrement. Mais bon, on les rencontre et ils fonctionnent dans une certaine logique. Et cette logique-là, elle nous. C'est ça qui est transmis, en fait.
Donc c'est une logique, une méthode qui vous a été transmise à vous?
Oui, je crois. Enfin, après, je ne l'ai pas du tout absorbée, mais il faudrait peut-être un peu, parce que, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, qui structure ses entretiens, de 3 heures. Enfin, c'est très structuré. Je ne le suis pas, mais le contact entre ces deux mondes, c'est, à mon avis, le nœud de la transmission. Enfin, c'est le nœud du travail, en fait. C'est ce dont on ne parle jamais, mais qui structure la conversation et qui touche le travail, je crois.
Et est-ce que vous parleriez auprès d'un public plus jeune, donc qui n'est pas au niveau d'étudiants, vous parlerez d'effets déclencheurs aussi pour l'écriture?
Oui, ça aide beaucoup les élèves. Mais pour revenir sur ce qui a déjà été dit, en fait, les élèves découvrent très vite et du coup, ils changent très vite d'avis sur la poésie parce qu'ils ont beaucoup d'a priori très négatifs. Il y a vraiment des représentations négatives de la part des élèves, en tout cas quand ils arrivent au lycée, puisque je suis au lycée depuis quelques années. Il y a des a priori négatifs sur la poésie, mais très très vite, pour parler de la transmission, je ne sais pas s'il s'agit de transmettre, mais en fait ils découvrent, pour reprendre ton mot, ils découvrent que la poésie c'est le genre privilégié d'expression personnelle.
Et pourquoi ils ont des a priori? Ils viennent d'où?
Ils ont des a priori parce que justement, très souvent la poésie est enseigné de manière... c'est le problème de la technicité. C'est que, on enseigne à des professeurs d'utiliser des outils pour entrer dans les textes. Et du coup, c'est la primauté de l'outil sur le goût du texte. Et du coup, ça coupe les élèves du texte. C'est comme si on mettait des outils entre l'élève et le texte, et du coup, ils perdent le goût du texte, ils perdent le goût de savoir, d'en savoir quelque chose, ils perdent le goût des mots. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça, et je suis là pour leur... ils ne le perdent pas toujours et tout le temps. Ils ne perdent pas toujours et tout le temps, mais Je me retrouve quand même avec un certain nombre d'élèves qui n'ont pas le goût des mots. Qui n'ont pas le goût des mots et qui ont encore moins le goût de la poésie, je dirais. La poésie, pour eux, c'est quelque chose d'incompréhensible. Voilà ce qu'ils me disent tout le temps.
Ils ne chantent pas des chansons, des choses comme ça, non?
Oui, alors bien sûr que je fais le lien avec les chansons, mais la différence qu'on peut faire entre la poésie et la chanson, c'est qu'elle leur est beaucoup plus audible. La poésie a quelque chose... Enfin, on peut trouver, bien sûr, des textes poétiques dans la chanson, mais la poésie, elle a quelque chose qui résiste vraiment au sens. Et c'est ce qui fait, pour moi, tout son intérêt. Et l'élève finit par trouver de l'intérêt à ce mystère. Voilà. Et moi, je passe toujours par l'écriture, parce que l'écriture, c'est de l'action aussi. Et les élèves aiment bien être dans l'action. Voilà. Alors que la lecture, pour eux, c'est quelque chose de passif, et c'est le prof qui détient le sens. Donc, du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour eux. Après, bien sûr... Je fais tout le temps le lien entre l'écriture et la lecture. Et pour revenir à votre question, du coup, pour les lancer dans l'écriture, parce qu'ils sont très effrayés par le vide, comme nous tous, souvent. Donc si je leur dis, maintenant, à votre tour d'écrire, là, il ne va pas se passer grand-chose pour la plupart d'entre eux. Alors que si je trouve une entrée, une contrainte, une consigne, quelque chose, voilà, ça peut être le début d'un vers. La plupart des élèves, ils vont y aller. Ils vont partir dans l'écriture. Alors, de là à dire que c'est poétique, là, on s'aperçoit que pour certains, on a l'impression que c'est inné. Donc, c'est là que je m'interroge justement sur les limites de la transmission. Pour moi, il y a des choses qui se transmettent, bien sûr, sinon je ne ferais pas ce métier. Mais il y a un irréductible qui ne se transmet pas.
À moins qu'ils aient entendu des choses de genre plus petit avant d'aller à l'école.
Oui, bien sûr. C'est pour ça que je ne sais pas ça. Mais je pense, par exemple, il y a des élèves qui vont écrire des textes particulièrement poétiques. Et puis, je vais leur dire, là, t'as vu, il y a une métaphore. Là, t'as vu, il y a... Ah bon ? En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils écrivent des métaphores. Et pourtant, ils écrivent des métaphores, des eugmes, des eugmas, des... Voilà, sans savoir que ça s'en est.
Oui, vous voulez dire quelque chose?
Non, mais justement, puisqu'on parle de la forme, je pense que la forme, même à l'époque classique, est exactement de la même manière qu'en ce moment, qu'aujourd'hui, doit se faire oublier. Je veux dire, pour qu'un poème soit beau, il ne faut pas penser à la forme. Après, effectivement, on peut l'analyser. C'est très intéressant d'analyser les choses et de voir ce qu'il y a derrière. Mais les plus belles tirades, je pense à des tirades de Racine, je ne sais pas pourquoi j'ai Phèdre, Hippolyte, par exemple. Mais je veux dire, on ne pense pas à la forme, on est embarqué par la, ce qui est dit, le sens ou le non-sens. Mais quelque chose nous embarque qui est vraiment de l'ordre... Et dans les arts en général, je pense que la forme se fait oublier, doit se faire oublier, au fond.
Oui, on a beaucoup parlé, j'ai parlé jusqu'à maintenant, je m'approche trop du micro moi aussi. Atelier d'écriture ou pas, mais bon, je pense qu'il y a bien d'autres sortes de transmission de la poésie, des lieux. Alors, à votre avis, où est-ce que ça peut se transmettre? Où est-ce que ça se transmet? Ou bien, où est-ce que ça pourrait se transmettre, bien que ça ne soit pas le cas aujourd'hui? Question large, excusez-moi, peut-être pas facile d'y répondre, c'est un peu comme vous disiez, c'est, Nathalie, écrit, c'est pas facile.
Quand on parle de désir, il peut y avoir simplement des rencontres, hein. Oui. Des rencontres où tout à coup quelqu'un parle de ce qu'il fait, de ce qu'il écrit, donne un texte, et ça peut déclencher quelque chose. Il peut arriver qu'on lise un très beau texte et que tout à coup on ait envie d'écrire.
Vous entendez, vous, quelqu'un d'autre lire vos textes, ça peut être une transmission aussi, c'est ce que vous voulez dire?
Nos propres textes, ouais. Non, parce qu'on les connaît. Enfin, on les connaît. Oui, on peut.
Dans les lectures, dans les.
Mais je veux dire, lire d'autres textes. Non,
oui, ou aussi d'autres textes, des textes qu'on aime.
Je pensais à d'autres textes. Il y a un rapport de texte à texte qui peuvent être très différents.
C'est vrai que. La lecture publique, enfin dite publique, c'est un des lieux où des gens qui ne lisent pas beaucoup ou souvent découvrent tout à coup oralement des choses, en écoutant. Alors je pense particulièrement à l'auteur qui lit son propre texte. C'est très important, pas le lecteur. Qui soi-disant sait lire ou lit correctement.
Pas le comédien.
Mais la personne qui est dans une relation singulière à son écriture et qui, au moment de la lecture publique, transmet précisément quelque chose de l'incertitude inhérente au fait même d'écrire. Hein, tout se passe comme s'il découvrait en quelque sorte son propre. Et alors, donc, il y a là, à ce moment-là, certaines personnes qui ne lisent pas habituellement de la poésie ou de la post-poésie ou autre chose de ce genre et qui découvrent qu'il y a là quelque chose vers quoi ils ont envie d'aller par la lecture. C'est-à-dire que la lecture, l'oralité peut conduire à la lecture silencieuse et personnelle. Enfin, j'ai observé souvent ce phénomène de gens qui pensent que tel ou tel texte est illisible ou incompréhensible ou d'une obscurité effarante et qui, entendant le texte réalisé physiquement, en quelque sorte, vocalement,
émotionnellement aussi.
Et émotionnellement, voilà, il y a quelque chose qui se passe là, donc c'est un des lieux possibles hors de la classe.
Donc multiplions les lectures par mons et par vos.
Oui. Et en dehors du recueil constitué, quelle est la transmission par la revue? Quelle est la spécificité? Bon, vous êtes responsable de la revue, vous dirigez la revue Gnoc. Oui. Quelle serait justement la place particulière de la revue et son effet de transmission?
Je suis un adepte précisément de la théorie des cabanes. C'est-à-dire, je suis pour la construction ici et là de cabanes, c'est-à-dire d'abris provisoires, destructibles, qui sont des lieux de passage précisément, d'accueil et de passage. Alors, par exemple, j'ai dirigé pendant 10 ans un laboratoire à l'École normale supérieure de Lyon, qui s'appelait Centre d'études poétiques, que je considère à l'intérieur d'une institution assez rigide, si l'on peut dire, comme je la considérais comme une cabane et comme un lieu précisément où j'invitais des écrivains à parler de leur texte et à parler leur texte devant des étudiants qui, eux, n'étaient pas en mal justement d'avoir dans leur petit cartable énormément d'outils pour décortiquer les textes, etc. Et donc précisément à ceux-là qui étaient évidemment extrêmement outillés du côté de la rhétorique ou de la poétique ou autre, ce qui se passait d'important et d'exceptionnel et qui sans doute a eu des effets dans le temps, c'est la rencontre et du fait que la poésie, le travail de l'écriture est fondé non pas simplement sur un savoir-faire, mais sur une expérience. Et la présence donc d'écrivains dans le cadre de la, dans le lieu de l'institution, etc., mais dans ma cabane en particulier. Donc voilà. Donc je parle de cette cabane parce que pour moi la revue, c'est ça qui m'y a fait penser, la revue c'est aussi une forme de cabane.
Est-ce que c'est important que cette cabane réunisse plusieurs voix justement? Alors, est-ce que ça a un effet plus...
Oui, mais alors je dirais qu'à mon avis, et sans doute parce que j'ai été, comment dirais-je, élevé à l'écriture dans les années... début des années 70, etc., pour moi, l'important, c'est qu'il y ait une cohérence. C'est-à-dire, je n'envisage pas du tout la revue comme une espèce de lieu éclectique où tout ce qui serait bien, d'un point de vue ou d'un autre, pourrait avoir trouvé place. J'ai plutôt l'idée que la revue défend un certain point de vue, une certaine attitude par rapport à l'écriture. Par conséquent, pour moi, enfin, la revue Nioc, par exemple, c'est une revue qui, effectivement, publie des choses très diverses, mais néanmoins des choses qui relèvent d'une remise en cause radicale de la notion même de poésie. Parce que c'est le principe sur lequel cette revue est fondée. Hein, si elle s'appelle Nioc, c'est un mot qu'a inventé Francis Ponge pour un de ses livres, et pour pas utiliser précisément le mot poésie. C'est-à-dire le mot Nioc est un mot qui remplace le mot poésie et qui justement est assez vide de sens apparemment pour accueillir des propositions nouvelles, expérimentales, etc. Et donc voilà comment j'entends cette cabane qu'est la revue pour ma part. Mais c'est effectivement un lieu où sont confrontées diverses expériences et où normalement, enfin en principe, pour moi, c'est très important que la revue donne un lieu à des pratiques émergentes, hein, des pratiques nouvelles, des pratiques, des chantiers d'écriture, des choses qui ne sont pas forcément sûres d'elles-mêmes, etc., mais qui sont comme ça en proposition. La revue est donc une sorte de laboratoire.
Comme c'est pour des ça que je faisais.
C'est pour
sorte,
ça que je faisais là. Oui, un atelier. Voilà. Un atelier, oui. Un laboratoire. Voilà.
Brigitte Gir, vous vouliez intervenir sur le...
Oui, parce que le début de votre intervention, cette cabane, m'a fait penser justement à la notion de fragilité. Rien n'est assuré, mais rien et tout peut devenir. Mais pour moi, c'est la notion même de l'écriture. Vous dites la poésie, je ne me suis jamais vue comme poète, d'ailleurs je ne dirai jamais que je suis poète, je suis écrivain ou j'écris. Et il me semble que justement, là encore, pour tout artiste et tout écrivain est dans ce lieu pour finir de la fragilité. Quand il se trouve à commencer quelque chose et à l'écrire, c'est, au fond, c'est branlant, quelque part. Même si après, c'est entouré de formalistes, comme c'était à l'époque. Mais il me semble que c'est une notion qu'il ne faut peut-être pas oublier. C'est justement ça, l'incertitude.
Bien la notion de cabane. D'ailleurs, en vous écoutant, j'étais en train de me dire que peut-être dans l'enseignement et même pour les états généraux de la poésie, il suffirait de supprimer le terme de poésie, de le remplacer par cabane, et peut-être que ça ferait venir beaucoup plus, hein, de monde. Petit point du mot.
Vous pensez à d'autres lieux, d'autres modes de transmission de la poésie?
J'ai pas d'imagination.
Enseignement, lecture, atelier d'écriture, c'est ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant.
Réseaux
à peu
sociaux
près. Oui.
Réseaux sociaux, un petit peu.
Oui. Ah oui. Réseaux sociaux, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait transmettre par les réseaux sociaux?
C'est-à-dire tout. Non, mais je veux dire,
en tout plus, est ça, rien ou...
Non. C'est que chaque réseau social est basé sur un système qui fonctionne sur des algorithmes, etc., etc. Mais chaque chose est... Oh là, je voulais trouver l'adjectif de subversif. Enfin, je voulais dire... Chacun de ces systèmes propose une forme de subversion. Et c'est à cet endroit-là qu'il est possible... par exemple, Instagram... parce que c'est ce avec quoi je suis le plus familière, et ce qui me semble proposer des possibilités, les possibilités les plus intéressantes, propose, c'est une application qui est faite pour poster des images, mais ça propose en fait de décrire son image. Et du coup, il y a une sorte de chose bizarre qui s'installe dans le rapport texte-image. Ah oui, c'est vrai. Et Laure m'a fait la remarque la semaine dernière. Le rapport texte-image, pour moi, la littéralité que ça propose de d'écrire une image qui est rien, enfin qui est une image lambda, ça c'est une sorte de manière de, enfin ça c'est une émergence de la poésie partout, plutôt que quelque chose que les gens ont reçu, c'est quelque chose dont ils se servent. Bon, évidemment, c'est pas toujours heureux, mais en fait, il y a des choses extrêmement juste, fine et consciente d'elle-même, je crois, en plus.
Je voudrais juste ajouter, puisque vous demandiez quelles autres formes de transmission. Alors, ce n'est pas une autre forme de transmission, mais c'est par exemple le rapport à l'art, qui peut être performance, exposition,
installation,
musique également. Il y a les maisons de la poésie ont beaucoup, en tout cas la maison de Saint-Quentin en Yvelines, pour laquelle j'ai pas mal travaillé à un moment donné, dirigée par Jacques Fournier, présidée par et créée par Roland Nados, nous donnait des missions comme ça, et il y en avait une par exemple d'aller dans les Monumenta. Lorsque c'était Boltanski qui exposait et de créer des ateliers d'écriture autour de l'œuvre de Boltanski, moi ça m'a vraiment passionnée. D'ailleurs, dans mon dernier livre, j'ai le poème qui a été, ou la série de poèmes que j'ai fini par faire, puisqu'ils voulaient, ils ne l'ont pas utilisé, ils n'ont pas utilisé ces œuvres qu'ils nous avaient commandées, mais ça m'a paru très intéressant justement. Il y avait quelque chose qui émergeait de cette installation qui m'a beaucoup émue, de Boltanski, et qui... Il y avait également des ateliers d'écriture parallèlement, et ça donne quelque chose qui, effectivement, est un peu différent, peut-être, de nos images et nos tics et les sentiers battus qu'on a forcément à un moment donné.
Bien, je vous propose de continuer l'échange avec la salle qui jusqu'à maintenant nous a écoutés. Vous aurez à répondre à un certain nombre de questions. Il y en a une déjà là qui...
Oui, moi je pensais à deux types un peu nouveaux de passages de la poésie qui m'avaient assez charmée. Il y a les souffleurs de poésie qui se sont trimballés dans les rues, dans des festivals, et qui au bout de leur espèce de didgeridoo, enfin c'est pas des didgeridoo, mais viennent vous souffler dans l'oreille, et c'est généralement très bien perçu par les gens auxquels ça s'adresse. Et puis il y a aussi ce que la Maison de la Poésie a inauguré, les siestes poétiques. On vous invite à venir dormir, et ça a un succès fou. Voilà, c'est le succès de ces deux supports qui me paraissait intéressant, et peut-être qu'il y a effectivement des façons de recevoir à inventer les réseaux sociaux. Moi ça me paraît effectivement très... ça peut être d'une totale platitude, on envoie des poèmes, on s'envoie des poèmes, ça peut être de la poésie en création, parce que ce dont tu parles, Instagram, c'est une nouvelle forme de poésie, c'est-à-dire un rapport du texte à l'image qui va inventer de la poésie. Oui. Donc elle peut être transmise, elle peut être inventée, elle peut... Voilà.
C'est pas une question. Non, mais l'un d'entre vous veut réagir ?
Oui, je pense que... Oui, ça c'est bien, en fait, je crois que... Il faut repenser aussi la question de lecteur. Moi, je crois que le lecteur, c'est quelqu'un qui est chez soi, qui n'attend rien, mais qui reçoit. Alors, à ces points de vue, Je mettrai aussi la poésie dans des endroits complètement inattendus, c'est-à-dire complètement décontextualisés, je ne sais pas, mais là, je pense à un truc très, peut-être, une intervention, un acte. Par exemple, je ne sais pas, aller dans des salles d'attente, des endroits vraiment, vraiment où ça ne se passe jamais rien et tout est très codé par certaines choses, il n'y a que les revues à lire, enfin, et faire des interventions comme ça.
Des graffitis poétiques, de la poésie murale, donc, en quelque sorte. Ce qu'ont fait les peintres, il y a 40 ans, 30 ans.
Ouais.
Quelque chose comme ça, vous voulez.
Oui, ou quelqu'un qui monte dans un taxi. Mais bon, c'est des choses que j'ai fait et que j'aimerais continuer à faire. Et c'est trouver un papier dans le taxi. Enfin, elle doit être... la poésie doit se perdre, enfin, au milieu des choses et réapparaître dans le quotidien. Mais moi, j'allais cacher des choses dans des supermarchés derrière les produits. Le papier toilette, t'achètes et derrière, t'as un truc... Enfin, ça doit faire pour justement faire le... Oui, parce que ça passe quelque chose.
Ça serait mieux qu'au métro, alors, parce qu'au métro, on trouve des poèmes. Hein, on trouve des poèmes dans le métro.
Oui, oui. Oui, sûrement, ça se fait, mais il faut continuer à en faire.
OK, merci. Une autre question ?
Oui, non, c'est juste un commentaire. Tout à l'heure, j'étais très surprise de vous entendre dire que l'écoute de la poésie pouvait susciter, du coup, des vocations, peut-être. Et en particulier, quand c'est l'auteur qui lit, qui dit... j'étais un peu surprise parce que dans les lectures poétiques, il y a généralement que des poètes ou les conjoints ou les amis très proches des poètes. Donc là, je ne crois pas du tout à ce type. Par contre, là, je pense que c'est une bonne piste parce que bon, dans le métro, il y a des poèmes, mais moi, j'ai rarement vu des gens en train de les lire. Hein, bon. Mais par contre, mélanger et forcer un petit peu le passage de la poésie. Il y a les livres d'artistes déjà qui font que les poètes et les plasticiens se mélangent un peu, mais il faut aller effectivement au-delà. Et je pense imposer la poésie dans des lieux où elle n'est pas habituelle. Je pense que c'est vraiment la seule façon d'essayer de faire un peu la transmission.
Merci Colette Klein. Une réaction parmi vous ?
Oui, parce que ce qui est important, en fait, c'est de désacraliser la poésie. Voilà. La sortir des livres, justement. Ouais.
Mais je ne sais pas trop si elle est sacralisée, par contre.
Enfin, en tout cas, je parle à mon niveau d'enseignante, en fait.
Non, mais parce que je pensais à... J'étais avec un petit garçon de 12 ans qui ne lit pas du tout, qui déteste ça, qui est pourtant très brillant à l'école. Et j'étais en train de lire les notes sur la mélodie des choses et je lui en lis un bout. Et bon, il n'avait pas l'air d'être dans la sacralisation, il avait plutôt d'être dans le déni d'intérêt, enfin quelque chose comme ça. Je crois que c'est une sorte d'étincelle. C'est bizarre parce qu'il y a à la fois on peut trouver une sorte de sacralisation peut-être, mais en même temps il y a aussi cette histoire d'équivalence et de comme tout se vaut, on peut négliger ça, alors que peut-être pas. Peut-être que c'est une dimension qui est en fait pas négligeable pour notre humanité. Enfin simplement en fait la littérature. Je sais pas.
Oui, merci. Une autre question.
C'est quelque chose qui m'est arrivé cet après-midi. J'étais au café pour écrire une lettre, parce que chez moi, c'est très difficile d'écrire des lettres. Et il y avait à côté de moi une jeune femme qui s'est avérée être canadienne, française, et qui m'a demandé de lui garder ses affaires deux minutes quand elle devait s'absenter. Et après, on a commencé à parler. Et les choses sont venues très, très naturellement. Et elle m'a dit une phrase absolument incroyable. Toutes les vagues sont différentes et chacun surfe dessus à sa manière. Alors j'ai trouvé ça magnifique et je lui ai demandé si elle écrivait. Et elle a dit non, pas vraiment, mais enfin finalement si, depuis peu de temps. Et je lui ai demandé comment elle avait fait pour venir à l'écriture. Et elle m'a dit c'est en écoutant du slam. Elle a été subjuguée par des séances de slam à Montréal ou ailleurs. Et en fait, je la comprends. Le slam, c'est un bon moyen de faire passer une émotion poétique qui peut être très belle. Et je pense notamment au premier slam de... Comment il s'appelle ? Grand Corps Malade, qui a un peu... je dirais pas banalisé, mais enfin, qui a rendu connu cette manière de composer que moi je connaissais pas du tout et plein de gens comme moi sans doute. Mais voilà, c'est une manière récente, on va dire. Le slam, ça existe depuis peu. Le rap et tout ça. Alors, le rap, il y a des choses qui sont très violentes, on apprécie ou pas, mais c'est quand même, souvent, c'est des vrais textes. Voilà, il y a plein de manières actuellement d'avoir accès à quelque chose de complètement désacralisé, enfin, en attendant que ça se sacralise, malheureusement, peut-être.
Merci. Une réaction à la table ? Oui ?
Oui, en fait. Non, je pensais simplement que dans l'atelier que j'avais animé il y a 2 ans chez Nathalie Brossard, on avait fait passer justement aux élèves un texte de Grand Corps Malade. Et c'était bien parce que ça. Après, ils avaient écrit pas de la même manière, mais il y avait quelque chose qui. Ceux qui n'aimaient. Chacun trouve ensuite son. Ce qu'il aime, hein. Parce que les goûts, en fait, si on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer tel poème, tel roman, telle écriture, tel tableau. Chacun est différent et heureusement...
C'est comme les vagues, quoi. Hein?
Oui, et heureusement. Donc, mais c'est bien de leur proposer des choses différentes, effectivement.
Juste pour rebondir oui. Là sur le manque d'intérêt dont vous parliez. Vous avez tout à fait raison, mais il y a aussi des élèves qui sacralisent la poésie. Donc, du coup, ça leur paraît très, très loin d'eux. Et surtout, la poésie, c'est quelque chose qui est figé, qui est rimé. Et il y a beaucoup d'élèves qui essayent d'écrire de la poésie rimée. Et ça ne fonctionne absolument pas, évidemment, ils n'y arrivent pas. Et c'est pour ça que je disais en slack qu'ils sacralisaient la poésie, parce qu'avant tout, c'est des textes littéraires dans des livres et puis de gens morts. Voilà, c'est en slack que je disais qu'ils sacralisaient. Mais il y a aussi, bien entendu, l'absence totale d'intérêt liée à leurs préjugés. Et juste pour finir, il y a une élève, j'avais des témoignages d'élèves à la fin d'ateliers d'écriture, je leur demande d'écrire ce qu'ils en ont pensé. Et il y en a une qui a écrit notamment, ce que j'ai découvert, c'est qu'on pouvait écrire sur presque rien et aller très loin avec.
Merci. Vincent Gimeno veut poser une question. Je pourrais déjà lui dire que organiser un marché de la poésie, c'est une façon de transmettre la poésie aussi. Mais peut-être qu'il va parler d'autre chose.
Oui, je vais surtout parler d'autre chose. C'est qu'à force de nous dire qu'on va défendre la poésie à travers le slam, à travers le rap, à travers la chanson, à travers des romans qui sont poétiques, etc., on va finir par tout défendre sauf la poésie. Donc il faudrait surtout ne pas oublier de défendre la poésie avant toute chose, parce que ben voilà, nous, c'est aussi un petit peu notre fonction, et on finit par oublier la poésie, on finit par faire des choses qui sont complètement différentes. Je n'ai rien ni contre le slam, ni contre le rap, ni contre la chanson, ni quoi que ce soit, mais il y a un moment donné où on s'écarte complètement du sujet poétique, et ça, c'est un petit peu dommage. Et c'est ce qu'on nous dit tout le temps, à nous, hein. On nous dit, vous auriez un peu plus de succès si effectivement faisiez venir des rappeurs, des slameurs, etc. Mais on est là pour défendre un univers bien précis, bien spécifique, qui est celui de la poésie, pas des choses environnantes. Ils peuvent peut-être amener des gens à s'intéresser à la poésie, mais enfin, si on ne s'intéresse déjà pas au départ à la poésie, je ne vois pas comment on y arriverait au final.
Et la poésie, Vincent Gimeno, c'est quoi alors ? À quoi vous faites référence ? Je sais bien que c'est une question difficile, mais...
C'est même une question quasiment impossible. Hein. Je disais, le jour de l'inauguration du marché de la poésie, je citais Thelonious Monk, qui disait « Moi, le jazz, je ne sais pas ce que c'est, mais quand j'en entends, je sais que c'en est. »
Bonne réponse. Une réaction à la table avant de passer la parole à quelqu'un dans le public.
Ce que Vincent Gimeno vient de dire me fait penser à une tribune de Martin Rueff dans Libé, où effectivement il faisait remarquer, et ça c'est quand même très juste, qu'actuellement tout est poétique, c'est-à-dire un parfum, une femme, un habit, il n'y a que du poétique, mais la poésie n'est nulle part, et surtout pas dans les journaux. Et c'est vrai en fait, malheureusement.
Oui, une question de Marie-Florence Herré.
Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est une réaction que j'avais déjà envie d'avoir après votre intervention, qui va un peu dans le sens de ce que tu viens de dire, Vincent, mais moi, ma crainte, c'est d'enfermer les jeunes dans ce qu'ils connaissent, à savoir le rap et le slam. Donc, pour moi, c'est de la poésie, mais ça n'est qu'un tout petit domaine de la poésie qui joue sur certaines techniques extrêmement limitées. Et donc, il me paraît important d'ouvrir des portes et pas de les conforter dans uniquement ce qu'ils connaissent déjà. Voilà. Peut-être qu'il faut qu'on peut passer par là, mais surtout pas pour y rester, quoi. Voilà. Mais pour moi, c'est aussi de la poésie. Voilà.
Merci. Une réaction à la table ? Non. D'autres questions ? Chantal, je te repasse le relais.
Je pense que pourquoi parler là autant de poésie, de chacun de ses poèmes, si on laissait tout simplement, comme le disait René Char, retentir vos textes, les écouter. Donc, si chacun d'entre vous voulait bien prendre la lecture d'un de ses textes. Qui commence ? C'est la grande question. C'est comme à l'école, vous le remarquez.
Alors, tu ordonnes, Chantal. Tu donnes la parole.
La dernière à parler sera la première à dire son texte.
Alors, ça va être Brigitte. Non, vous. Oui. Pardon, excusez-moi, je me suis trompée de nom. Là.
Je contextualise ou non ? Parce que du coup... Parce que il se trouve que c'est une. Je viens d'écrire mon premier livre et le premier tiers du livre est un ensemble de. Il y a 19 parties plus une introduction et une conclusion. Et du coup, je vais vous lire la 15e et la 15e et la 19e partie. Et il n'y a pas besoin de plus de contextualisation, c'est juste. 15e partie. Gilles dit, j'ai vu le soleil en bas de l'escalier. Je dis, dans le Berry et à la télévision en même temps. Gilles dit, parle plus bas mais parle encore. Je dis, le monde n'est pas prêt pour nous. Gilles dit, vous ne trouvez pas qu'elle est belle ? Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez, elle est morte. Gilles dit, quand je te vois comme ça, chérie mon amour, j'ai envie de te serrer. Je dis, quelqu'un est tabassé. Gilles dit, les larmes épaississent les cils de l'homme. Je dis, je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Gilles dit, je ne suis pas sûr que l'éternité n'invite pas au fascisme. 16, balayer, fermer, partir. 19e partie. Je dis, il y a beaucoup de gens qui mettent le feu à des fleurs, à des bouquets. Je dis, j'en crève que la mort guette partout et que nous vivions sans joie dans des îles entourées de murs. Je dis, vous n'avez pas peur. Je dis, à très bien. Je dis, le bouquet en feu, c'est la fleur déjà morte, tuée à nouveau. 20, non, je n'y pense pas. Quand j'y pense, ça me met mal à l'aise. Après, je ne peux pas vivre, je ne peux plus voir la mer, l'horizon est une image, il n'y a pas d'horizon correct, de vue correcte, les vues sont mortes, j'ai peur de devenir aveugle.
Au Gidjir, on vous demande de prendre la suite.
Puisque je parlais de Boltanski, je vais lire... Micro très court, hein, ça sera. Ah oui, pardon. J'ai oublié le micro. Ils ont dit, ça manque de chiens, ça manque de femmes. Les barbelés sont à terre, le monde est un lit triste. Un corps gonflé de sang repose dans la boue, une goutte bleue sur les fronts. On n'y était pas, on n'a pas vu, on n'a rien vu. On aurait pu, on aurait dû. Ce matin, le printemps s'est jeté par la verrière. Les carrés de légumes fripés du dernier hiver ont ressuscité en habits de dimanche. Les tiroirs sont fermés à clé. Un nécessaire à recoudre les plaies s'y trouve coincé par mégarde. Il faut chercher encore, braver l'interdit. Demain est à cette condition. Mais le brouillard est glacial, les gens prêts à tout, le mur dégoulinant de tristesse. Récit d'un trop-plein de corps disparus. Contenu pour finir assez médiocre.
Merci. Jean-Marie Glaise.
Oui. Alors on a photocopié un bout des cabanes tout à l'heure. Donc en fait, il s'agit du chapitre 13 du livre des cabanes. Oui. Chacune de ces ardoises fait un toit qui est également un mur, et ce toit et ce mur et cet écran sont de la nuit multipliée, et cette nuit multipliée ou densifiée est là où nous sommes à dormir debout, habiter, préparer des projectiles. En Chine, noircir les temps signifie qu'on écrit ou qu'on vient d'écrire. L'écran ou les temps sont devenus comme cette nuit et cette épaisseur de nuit. Écrire, dormir, habiter, préparer des projectiles. Oui, nous habitons vos ruines, mais les barricades servent à protéger les accès, à ralentir la progression des forces de l'ordre, à ralentir leur progression, à les ralentir. Plus loin, à l'intérieur, on construira des cabanes à l'intérieur de ce cercle, ici, derrière la ligne des barricades, à couvert, avec des branches, des feuillages, des planches. Il y aura plusieurs cabanes, beaucoup entre les arbres et devant à la lisière. On coupe à travers champs pour acheter le pain. S'ils font des barrages, on coupera à travers champs et le long des haies. Les barrages servent à obstruer les accès, à bloquer les sorties, à contrôler nos identités, à contrôler. Mais nous ne sommes personne. Nous ne sommes ni hommes ni femmes. Nous avons tous le même nom. Nous ne venons de nulle part. Nous sommes ici. Nous avons trouvé ici et encore. Ici, oui, mon nom est Camille. Et son nom est Camille. Et je suis ici et je coupe des branches et je fais du feu. Je coupe à travers champs pour apporter le pain. Les barrages de police, les barrages mobiles, les uniformes, le périmètre interdit, les barricades, les cabanes, les hangars, les granges, avec des arbres coupés, tombés. Oui, nous habitons vos ruines, mais avec des pommes et des cailloux et des bouteilles de verre contre les grenades, avec des pommes mouillées, des morceaux de lampe, des outils rouillés, avec des fruits et des pierres. J'entends le bruit des arbres qui tombent. J'entends le bruit de la pluie sur les carrés de tôle. Je suis ici depuis 2 heures, 2 hivers, depuis 3 hivers, depuis longtemps. Elle est ici depuis 4 hivers, et dans la boue du chemin, et comme ça, avec l'infirmerie et le dortoir, la paille, l'argile et le pain, les médicaments et les chemises. Dès le matin, 6 heures, il y a les hélicoptères. Ils font nuit, ils font un bruit de cascade. Ou quand le vent est très fort, ils tournent au-dessus des arbres. Ils couchent l'herbe du pré. Appel à la construction des cabanes. Oui, ceci est un chantier. À 20 cm sous la surface du sol, il y a de l'argile. Il faut creuser. La paille et l'argile servent à isoler les cabanes. Il faut construire et reconstruire ces cabanes. Oui, ceci est un projectile. Mais écrire, dormir, habiter, préparer les projectiles, noircir, dormir, habiter, préparer, creuser, écrire. Voilà. Ainsi le peuple revient. L'herbe pousse et repousse. Voilà.
Merci. Ariana Daniele. Je vais dire des traductions que j'ai faites sur des poèmes d'un livre qui s'appelle Lengua que recoge lo caído, langue qui ramasse ce qui est tombé. Ça ne fait pas la même chose le titre en français, mais combien de nudité il y a dans le mot et combien encore de ce qu'elle dit et signale qu'un jeune homme. Quelle existence de soi, celle de se nommer sous le manteau des choses, se retrouver avec un autre corps blessé qui se nomme dans la blessure, savoir que le corps dans le silence disparaît. De même que quand je nomme ce qui a été dit, toute est répétition de la mort, merveille de ces temps où le trésor que l'on découvre nous précède.
Quelque chose dans le faire montre une maturité. Ce n'est plus se sauver, le désir mis dans le vide. Quelque chose dans le fruit tombe sans se détacher. Toute surface et tout volume, redondance. L'œil fatigué de celui qui s'est arrêté pour regarder. Les mêmes choses, les choses mêmes. Et dans les cruciales affrontements, il y aura celui qui laissera tomber le crayon pour dormir sous un carton, mais il y aura aussi celui qui s'élèvera pour regarder. Ce n'est plus se sauver, le désir mis dans le vide. Ici, on me dit voyageuse. Du voyage, j'apprends seulement à ne pas m'arrêter. Cette pauvre à laquelle on dit voyageuse n'est pas venue pour profiter et découvrir, craindre et voyager dans mon corps. Le paysage est une façon de se donner à la terre. Quand l'idée de la mer est en moi être au bord, et la mer c'est être déjà parti. Peut être la beauté autre chose que ce qu'on reçoit dans les lieux où se lève le regard. Et là je finis avec une lettre du livre, du roman. Ma chère, je me permets d'imaginer et de croire aux mots, cette langue que je me suis créée pour nommer ce qui n'existe pas. Les mondes dévastent dehors, je suis d'une quête seule, cette fois-ci l'inconnu plus que jamais, l'inconnu est l'avenir. Celui qui est un chez-soi n'attend rien mais reçoit. Laissez tomber un livre là où personne ne l'attendait, ça c'est ma petite révolution. Cette langue ne se parle pas encore, je suis un dialecte qui disparaît en moi, on me tuera car j'étais une parmi des millions. Ils seront prêts à recevoir ce qui ne s'attend pas. Je suis un pays sans tourisme. Et si je leur disais que par des mots je me tiens, ils ne sauraient quoi bouger pour me faire disparaître. Le premier homme qui mettrait un pied sur mon sol, je l'appellerai Dieu. Je ne peux pas cesser d'être cette fidélité, ce qu'on appelle monde, et que moi, j'appelle dehors toujours le monde. Voilà.
Je te remercie. Nathalie Brossard, pour terminer.
Si j'écris, c'est pour coucher sur le... Pardon. Si j'écris, c'est pour coucher les mots sur le papier. Le papier est le lit douillet dont mes mots ont besoin. Mes mots sont des misérables. Ils collent à ma langue et ne veulent pas sortir. Ils restent coincés dans ma gorge et forment des nœuds. Mes mots sont comme moi. Ils sont misérables et se sauvent quand il faudrait être là. Ils se dégonflent, ne veulent plus rien dire, perdent de leur force et de leur consistance. Sont affreux quand il faudrait être pimpant ou plein de virulence, éclaboussant les méchants. Si j'écris, c'est pour donner de soi et que cela soit doux au toucher. Quand j'ouvre la bouche, mes mots n'ont que la peau sur les os. Ou ils sont trop verts ou trop roses. Ils ne s'attachent pas à dire ce que je veux vraiment dire. Ils sont loin de moi et m'éloignent des autres. Mais la pire des solitudes est de ne parler que de soi à soi, dans des soirées sans heurts, sans que l'autre ne soit là, que des ombres dans l'horizon sombre, et la honte de n'avoir pas su retenir, savoir au moins tenir un stylo.
Non, ce n'était pas prévu du tout.
Bien, je vous invite, comme il est de tradition, de sortir. C'est ouvert, car oui. Et vous avez du jus d'orange, du vin rouge avec un peu de saucisson, des choses comme ça qui vous attendent à côté. Donc on pourra continuer à discuter un peu. Ah oui, puis aussi, sur la cheminée, là, c'est à votre disposition. C'est un guide des auteurs que nous venons de publier. Si vous avez des problèmes dans les résidences, si vous avez des problèmes ou pas de problèmes dans vos contrats d'édition, vous avez tout ce qu'un auteur doit savoir. C'est là-bas, c'est gratuit. Vous pouvez vous servir.